moi, ce roman-là m'est rentré dedans, là, mais à un point tel que c'est le... ça m'a fait pleurer. C'est la première fois qu'un livre me faisait pleurer.
Bonjour, je suis Martine Podesto, directrice des éditions chez Québec Amérique. Je vous souhaite la bienvenue à ce premier épisode de « Chez l'éditeur ». À chaque épisode, j'aurai le plaisir d'accueillir un auteur ou un artisan de l'univers du livre. Mon invité, en plus de nous parler de sa dernière création, nous présentera un livre ou un auteur coup de cœur et nous lira un extrait d'une œuvre qui l'a particulièrement inspiré. Vous écoutez « Chez l'éditeur ». Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marianne Legault, qui est romancière et éditrice d'ouvrages de référence chez Québec Amérique.
Bonjour Martine.
Je dois dire que je suis très contente de commencer avec toi, en fait, de me lancer dans ce premier épisode avec toi de chez l'éditeur. Parce que d'abord, on se connaît, on travaille ensemble depuis combien de temps? Combien d'années? 15 ans?
15 ans minimum.
Ouais, hein, 15 ans. Et puis de multiples aventures depuis 15 ans, hein. Oui. La référence jeunesse, la rédaction d'encyclopédie, la scénarisation aussi. Mais j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de toi, puis qu'on apprenne aux gens qui nous écoutent d'où tu viens, puis ton parcours, qu'on leur raconte un peu ton parcours. Donc, t'es d'Abitibi. Tu viens d'Abitibi, Marianne.
Ben oui.
Et t'es débarquée ici qu'au début de la vingtaine pour poursuivre tes études en communication.
À l'UQAM, oui.
À l'UQAM. Mais t'avais quoi en tête à ce moment-là? Est-ce que tu te destinais, ce que t'avais envie de faire, de travailler dans l'édition?
En fait, c'était pas l'édition en tant que telle, mais j'avais toujours voulu faire de la vulgarisation scientifique. Puis déjà, quand je me suis lancée en communication à l'université, c'est ça que je voulais faire.
Ah oui, OK, déjà.
Vulgarisation scientifique.
Ah oui. Et donc, ça t'habitait déjà, ce désir de faire de la vulgarisation scientifique.
Oui. Puis même par, moi je dirais, par le ludo-éducatif m'a toujours attiré dans cette façon d'apprendre en s'amusant.
OK. Et puis tout à coup, Marianne, ben, quelques 12, 13 années plus tard, tu glisses dans la fiction. En 2013, tu publies un premier roman, Le Muséum. Dis-moi, est-ce que tu vois un lien entre ta passion première, qui est celle de la vulgarisation scientifique, et ce besoin créatif que tu as eu tout à coup et qui était criant, je pense, parce que tu as passé beaucoup de temps et puis ce désir était très cher à ton cœur. Donc, est-ce qu'il y a un lien pour toi ou au contraire, ce serait comme une manière de sortir de l'univers de la référence ou du contenu scientifique pour te consacrer à quelque chose d'un peu plus créatif?
C'est drôle parce que moi, dans mon cas, les frontières sont assez floues entre ce qui est de la fiction et ce qui est de la référence. D'ailleurs, on a travaillé sur, à partir, je pense, de 2004-2005, sur une encyclopédie dont vous êtes le héros, qui, moi, a fait mon bonheur parce que je pouvais mélanger deux choses que j'adorais, c'est-à-dire la fiction et l'encyclopédique. Ouais. Puis ça m'a donné le goût d'aller de l'autre côté de la clôture, comme on dit, d'aller dans le fictif, mais en amenant avec moi des petites briques de référence. Fait que c'est comme si j'avais... fait le contraire.
Oui, parce que j'ai l'impression, en fait, quand on lit Le Muséum, que c'est pas si éloigné, finalement. Parce que c'est un texte qui est extrêmement bien mené, structuré, et on a derrière ton contenu des bribes aussi de, on parle d'objets hétéroclites aussi. Mais en fait, juste pour replacer un peu les lecteurs dans le muséum, j'ai envie d'en parler un petit peu. Puis tu corriges-moi si t'as envie d'ajouter des choses. Alors, dans cette espèce d'histoire un peu rocambolesque, hein, disons-le, on suit le périple d'une spécialiste. En histoire ancienne. Spécialiste qui se voit forcé d'étudier l'effacement de sa propre civilisation. Alors, on voyage à ses côtés dans un monde totalement effacé, plongé dans un grand brouillard et armé d'une simple caméra. Donc, notre voyageuse fait la rencontre de personnages mystérieux, comme le mendiant, l'homme sandwich, l'homme serpent, l'énergumène, etc. Et on sent le lien. On sent le lien entre ta passion pour l'encyclopédie, l'ouvrage de référence, et cet exercice créatif que tu as fait, parce qu'on perd jamais de vue le noyau central de ton propos.
Moi, à la base, je voulais faire un livre sur la mémoire et sur l'oubli. Ça fait partie de mes angoisses. Puis souvent, quand on est écrivain, ben on cherche à finalement dompter nos démons. Puis pour moi, ben, je suis partie de là, un livre sur la mémoire et l'oubli. Je trouve que c'est important. C'est comme si, pour moi, le muséum, c'est un livre sur autant sur la mémoire d'un point de vue individuel que d'un point de vue collectif. Donc la mémoire qui s'effrite. Ouais. Puis j'essayais d'embarquer le lecteur dans une aventure où justement il doit vivre cet effritement-là autant dans le contenu que dans le contenant du livre. Donc dans mon livre, il n'y a aucun nom propre. Tombe, il y a plus de jeu, il y a plus de lieu concret. Ouais. D'ailleurs, les sens sont importants. Quand tu perds tous tes repères en tant que lecteur, et comme la narratrice, ben, il te reste quoi? Il te reste les sens. Ouais. J'essaie d'amener le lecteur vers cette dimension-là aussi, parce que quand t'as plus d'informations, ben, il te reste les sens, donc, se laisser guider par nos sens, puis c'est un peu le but de cette aventure.
Le muséum, d'ailleurs, Marianne, qui a été finaliste au prix Archambault après sa sortie, ce qui n'est pas rien quand même. Et moi, je me souviens à l'époque de la revue de presse qui a été très, très favorable et qui a bien reçu ce premier roman. Et on a même comparé ta plume à celle de Lewis Carroll. On a parlé d'Alice au Pays des Merveilles.
Oui, ben moi, en fait, pour moi, Lewis Carroll, je l'ai à la maison puis je l'adore. C'est sûr que pour moi l'imaginaire est important dans tout ça, puis j'étais contente de voir aussi que on avait apprécié la forme. Ben, je pense que c'est ça qui avait captivé les gens, c'est que la forme était inhabituelle.
Absolument.
La forme là, autant que le fond, finalement, que j'avais travaillé aussi fort la forme que le fond pour que ça s'emboîte. C'est ça l'idée, c'est que les personnages, les lieux, les époques se confondent complètement dans ce livre-là. C'est comme un jeu de poupées russes finalement, mon livre.
Ouais.
Puis je pense que c'est ça que les gens ont retenu. Un peu comme Alice au Pays des Merveilles, cette confusion-là.
Ouais, cette confusion, mais qui finalement construit quelque chose.
Exactement.
À la fin,
finalement, cette confusion qui est pas si confuse.
Exactement. Pas du tout. Alors, Marianne, écoute, voici venu le moment de te demander de me parler d'un auteur ou d'un récit qui t'a particulièrement marqué. Est-ce qu'il y a un roman qui a fait date pour toi dans ton parcours, qui t'a inspiré, qui t'a bouleversé?
Pour moi, c'est assez facile parce que c'est probablement le roman que j'ai le plus donné en cadeau aux jeunes autour de moi. C'est un roman qui est sorti en 1992. C'est Michel Marino qui l'a écrit. Ça s'appelle La route de Schlieffen.
Quel auteur, oui.
J'ai été bouleversée. C'est fou parce que je n'ai pas été la seule bouleversée par ce livre-là, parce que je pense que sur Québec et Amérique, c'est le livre qui a été le plus réimprimé.
Oui, je pense que c'est un grand classique qui a été réimprimé, réédité avec des...
Ce livre-là a 25 ans et il est encore
d'actualité.
Hein? C'est vraiment l'histoire d'un réfugié qui arrive au Québec. Puis
on suit, raconte un petit peu, résume grossièrement, parce qu'on peut pas malheureusement y aller dans le détail, mais ce réfugié, bon, en fait...
On suit l'histoire de Karim.
Qui est nouvellement arrivé,
qui arrive dans sa classe au Québec, et tous les élèves...
Donc c'est un roman jeunesse.
Oui, c'est un roman, ben je dirais que c'est les grands jeunes.
Oui, parce que je pense que c'est ça, c'est un roman qui peut être lu par des adultes aussi.
Oui, exactement, et qui est aussi pertinent.
Absolument.
Je veux dire, c'est vraiment... Michel Marino a ce talent vraiment incroyable de te catapulter.
Ouais.
Dans ce cas-ci, c'était au Liban, pendant la guerre civile. Okay. Et pour le lecteur, de se sentir comme si nous, on vivait les obus.
Mais je t'ai interrompu, je m'excuse, tu parlais de Karim, donc qui arrive au
Karim,
Québec.
Donc Karim qui arrive au Québec et qui intrigue les élèves autour de lui. C'est un personnage sombre, on comprend pas pourquoi qu'il est sombre comme ça, qu'il parle pas puis tout ça, puis finalement Michel Marino, l'auteur, nous amène dans son histoire à lui au Liban, qu'est-ce qu'il a fui.
Comme tu le dis, c'est tellement d'actualité, malheureusement.
Effectivement.
La
là, à l'époque, c'était Beyrouth, mais aujourd'hui, c'est Alep. Mais c'est la même chose. C'est l'histoire qui recommence.
C'est la même histoire humaine.
Exactement.
Ouais. OK. J'ai envie de te demander de nous en lire un extrait.
Ben, sans problème, ça me fait plaisir. Dehors éclatent les premiers obus. L'unique ampoule du plafond vacille et de façon inquiétante, mais tient bon. La petite génératrice installée dans un coin ronronne toujours. D'un groupe de femmes s'élève une prière, reprise par la plupart des occupants de l'abri. Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Et les heures s'écoulent, monotones. L'air est étouffant. Ça sent le kérosène, la sueur et le tabac. On entend des chansons, parfois, ou des pleurs, vite réprimés. Un vieux couple regarde des photos en se remémorant des soirées depuis longtemps disparues. Tu avais ton complet gris, celui qui te donnait un air si distingué. Et toi, ta robe verte et ta broche de diamants. Dans un coin, une femme avale Valium après Valium. Karim la regarde, fasciné malgré lui par la régularité du geste. Il se demande s'il ne devrait pas intervenir. Ces comprimés connaissent un succès phénoménal à Beyrouth. On peut les acheter sans ordonnance dans n'importe quelle pharmacie. Il suffit de demander et de payer. Karim observe cette vie souterraine tellement semblable à celle qui se déroule dans le trou qu'il a partagé avec la famille de Béchir durant des semaines, ou à celle de l'abri aménagé dans son immeuble à lui. Tout ce temps, il a conscience de Maha, qui s'est réveillée et qui s'occupe maintenant du bébé. Elle change la couche de Jade, met de côté la couche souillée pour la rincer plus tard, puis elle fait quelques pas dans l'abri, le bébé dans les bras. Elle ne parle à personne, ne répond pas quand quelqu'un s'adresse à elle, même gentiment. Karim ne comprend pas cette obstination à se montrer désagréable. Si ce n'était de la lueur de panique qu'il devine au fond de ses yeux, il se dirait que Madame Farah a raison et que la fillette est dure et insensible. Mais sans doute n'est-elle que terrifiée et déboussolée. On le serait à moins.
Quel texte bouleversant, merci. Merci beaucoup, Marianne. Tu nous donnes envie, assurément, de lire La route de Schlieffer de Michel Marino. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci encore à Marianne Legault pour sa participation. Chez l'éditeur est une production des éditions Québec-Amérique. Nous remercions Monopole pour la musique et Philippe Collard à la technique. Avant de vous quitter, je vous rappelle que notre café chez l'éditeur est maintenant ouvert. Venez nous visiter au 7240 rue Saint-Hubert à Montréal. Je m'appelle Martine Podesto, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous dis à bientôt pour un autre épisode de Chez l'éditeur.